Polikouchka, chapitre 7. Le lendemain matin, devant le perron de la maison des Dvorovy, stationnait une petite charrette qui servait au gérant pour ses voyages. Elle était attelée d'un cheval qu'on appelait, je ne sais pourquoi, du nom de Baraban. Aniutka, la fille aînée de Polikei, malgré la pluie mêlée de grêle, malgré le vent froid, se tenait, les pieds nus, à la tête du cheval, le plus loin possible, visiblement effrayée. D'une main, elle le tenait par la bride, de l'autre, elle maintenait une camisole d'un jaune verdâtre qui, dans la famille, servait tout à la fois de tchouba, de fichu, de tapis, de paletot pour Polikei et de beaucoup d'autres choses encore. Il y avait de l'animation dans le coin. Il y faisait encore sombre. L'aube apparaissait à peine à travers la pluie qui pénétrait par la fenêtre en papier collé. Akulina laissa un moment sa cuisine et ses enfants. Les plus petits, encore au lit, tremblaient de froid, leur couverture ayant été enlevée pour abriter leur père et remplacée par le fichu de la mère. Akulina s'occupa de son mari et mit la dernière main aux préparatifs du voyage. La chemise était propre, les bottes trouées et, comme on dit, demandant la pâtée, l'inquiétaient surtout. Elle commença par ôter son unique paire de bas de laine et les passa à son mari. Puis, prenant un molleton de cheval, qui, traînant dans l'écurie, avait trouvé depuis 3 jours, grâce à Polikei, une meilleure place dans l'isba, elle s'ingénia à emboucher les trous des bottes de manière à préserver son mari de l'humidité. Lui-même, s'étant accroupi sur le lit, s'appliquait à arranger sa ceinture pour qu'elle n'eût pas l'air d'une corde sale, tandis que la toute petite fille, dans le touloupe qui lui couvrait la tête et dépassait ses pieds, était envoyée chez Nikita pour lui emprunter son bonnet. Les Dvorovy augmentaient encore le tohu-bohu en venant prier Polikei de leur acheter à la ville qui des aiguilles, qui du thé, celle-ci de l'huile, celui-là du tabac, et la femme du menuisier, un peu de sucre. Cette dernière avait déjà pris le temps de faire bouillir son samovar, et, pour amadouer Ilitch, lui apportait dans une cruche un breuvage qu'elle appelait du thé. Nikita, ayant refusé de prêter son bonnet, il fallait raccommoder celui de Polikei, c'est-à-dire remettre en place la ouate qui pendait et coudre le trou avec une aiguille de palefrenier. Comme Aniutka, transi de froid, avait à peine la force de tenir Baraban, Akulina alla prendre sa place. Finalement, Polikei, ayant mis sur lui tous les vêtements de la famille, en laissant seulement la camisole et les pantoufles, monta dans la charrette. Il se couvrit, arrangea le foin, s'installa dessus, ramena les guides, se serra davantage d'un air d'importance et partit. Son petit garçon, Mishka, sortit sur le perron et lui demanda de le voiturer un moment. Mashka, qui bégayait encore, dit, elle aussi, qu'elle voulait être voilulée et qu'elle avait saut maintenant sans la souba. Polikei retint Baraban, sourit de son sourire d'homme faible. Akulina fit monter les enfants et, se penchant vers Polikei, lui dit à voix basse de ne pas oublier son serment et de ne rien boire en route. Polikei mena les enfants jusqu'à la boutique du maréchal Ferrand. Là, il les descendit, s'enveloppa encore une fois, arrangea de nouveau son bonnet et partit d'un petit trot soutenu, les cahots faisant trembler ses joues et frapper ses pieds contre la charrette, tandis que Mashka et Mishka, avec une vivacité égale et piaillant à qui mieux mieux, couraient nu-pieds vers la maison, ce qui attira l'attention d'un chien du village. Il s'arrêta à les observer, puis, baissant tout à coup la queue, il détala vers son logis. Et cela fit crier 10 fois plus les héritiers de Polikei. Le temps était mauvais. La bise coupait le visage de Poliquet. Une espèce de neige ou de grêle se mit à lui fouetter la figure, les mains nues qu'il cachait avec les guides glacés dans les manches du touloupe, et à crépiter aussi sur la vieille tête de Baraban qui rabattait ses oreilles et clignotait des yeux. Bientôt, une éclaircie se fit. On voyait distinctement les nuages bleuâtres chargés de neige, et le soleil essaya de briller, mais timidement, tristement, comme le sourire de Poliquet. Celui-ci, néanmoins, était plongé dans d'agréables rêveries. Lui, qu'on parlait de déporter, qu'on menaçait du recrutement, lui, que les paresseux s'abstenaient seuls de battre, lui, qu'on chargeait toujours des pires corvées, voilà qu'il s'en va maintenant toucher une somme folle. La Barigna a confiance en lui. Il est assis dans la propre charrette du gérant, attelé du propre cheval qui traîne la Barigna dans ses voyages. Et il roule, ni plus ni moins qu'un dvornik, avec deux guides en cuir dans sa main. Et Poliquet se redressait, arrangeait la ouate qui sortait de son bonnet et s'enveloppait de plus belle. Du reste, si Poliquet s'imaginait ressembler tout à fait à un riche dvornik, il se trompait. Chacun sait, il est vrai, que même un marchand à 10 000 roule dans une charrette avec des guides en cuir. C'est la même chose, et ce n'est pas la même chose. On voit un homme barbu dans un caftan noir ou bleu, traîné par un cheval bien nourri, seul, dans la charrette. Il suffit d'un coup d'œil pour voir si le cheval est en effet bien nourri, si l'homme est lui-même en bon point, comment il se tient, comment il est ceinturé, comment le cheval est attelé. Et l'on devine bien vite si c'est avec des 1000 ou avec des 100 que ce moujik fait le commerce. Tout homme d'expérience, en regardant de près Poliquet, ses mains, son visage, sa barbe qu'il laissait pousser depuis quelque temps, sa ceinture, le foin répandu, ça et là, dans la charrette, le maigre Baraban, eut aussitôt reconnu en lui non pas un marchand en gros, non pas un dvornik, mais un petit cerf qui commercerait non avec des 1000, ni des centaines, ni même des dizaines. Ce n'était pas la vie de Ilitch Poliquet. Il se trompait, et se trompait agréablement. 1 500 roubles, il va rapporter 1 500 roubles. S'il le voulait, il tournerait Baraban vers Odessa au lieu de le tourner vers la maison, et il s'en irait où Dieu le mènerait. Seulement, il ne fera pas cela. Mais il rapportera fidèlement la somme à la Barigna, en disant qu'il en a déjà porté de bien autrement forte. En passant devant le cabaret, Baraban se mit à tirer la guide de gauche. Il s'arrêta et se tourna de ce côté. Mais Poliquet, bien qu'ayant l'argent à lui remis pour les emplettes à faire à la ville, fouetta Baraban de son knout et poursuivit son chemin. Il en fit autant devant un autre cabaret. Vers midi, il descendit de sa charrette, ouvrit la porte cochère de la maison du marchand qui hébergeait tous les gens de la Barigna, fit entrer son véhicule, détella, mit le cheval au foin, dîna avec les ouvriers du marchand, sans oublier de dire pour quelle importante affaire il était venu, et s'en fut chez le jardinier avec la lettre dans son bonnet. Le jardinier connaissait Poliquet. Après avoir lu la lettre, il lui demanda, avec une visible défiance, si c'était bien à lui que l'argent devait être remis. Poliquet voulut se fâcher, mais il n'y réussit point. Il ne fit que sourire de son sourire triste. Le jardinier lut et relut la lettre et finit par lui remettre la somme. En recevant l'argent, Poliquet le mit dans sa poitrine et retourna à l'auberge. Ni le restaurant, ni le cabaret, rien ne put le tenter. Il sentait, dans tout son être, une fièvre délicieuse. Il fit plusieurs haltes devant les magasins où des marchandises tiraient l'œil,
des bottes,
des cafetans, des bonnets, des indiennes à jolis dessins et force victuailles. Il s'arrêtait un moment, puis s'en allait, le cœur tout réjoui. Je puis acheter tout cela, mais je n'en ferai rien. Il alla au marché, acheter ce qu'on lui avait dit, prit toutes ses emplettes et se mit à marchander un touloupe dont on voulait 25 roubles. Le marchand, en regardant Poliquet, doutait fortement qu'il pût faire cet achat. Mais Poliquet lui montra sa poitrine en disant qu'il pourrait, s'il le voulait, acheter toute la boutique et demanda à essayer le touloupe. Il le chiffonna, souffla sur le poil, s'imprégna de l'odeur et finit par l'ôter en soupirant. « Le prix ne me convient pas, » dit-il. « Si tu me le laissais à 15 roubles. » Le marchand jeta avec colère le touloupe par-dessus le comptoir. Poliquet sortit et, très dispos, rentra à son auberge. Après avoir soupé et donné à Baraban de l'eau et de l'avoine, il monta sur le poêle, retira l'enveloppe et l'examina longtemps. Il pria un dvornique qui savait lire de lui lire l'adresse avec ces mots « Valeur 1617 roubles ». L'enveloppe était en fort papier, les cachets en cire brune avec une encre, un grand au milieu et 4 aux 4 coins. Il y avait une petite tache de cire. Poliquet regardait tout cela. Il palpa même les angles que faisaient les billets à travers l'enveloppe. Il éprouvait une joie d'enfant à se savoir tant d'argent entre les mains. Il plaça l'enveloppe dans le trou du bonnet, mit le bonnet sur sa tête et se coucha. Mais pendant la nuit, il se réveilla plusieurs fois pour tâter l'enveloppe et chaque fois, en la trouvant à la même place, il ressentait une agréable sensation d'orgueil, à penser que lui, ce Poliquet tant décrié, avait tant d'argent sur lui et qu'il le rapporterait exactement comme le gérant lui-même ne saurait le faire.